France Culture. France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourbon.
L'actualité décide parfois de manière intempestive des choix de recherche. C'est l'écho de plusieurs épisodes récents de violences policières, en l'occurrence de viols commis par des policiers sur des hommes racisés, qui a réactivé un souvenir d'enfance en Johanna Siméon, politiste, professeure à l'école normale supérieure. Il l'a convaincue de mener l'enquête. Retrouver Youssef, celui dont elle entendit parler pour la première fois alors qu'elle avait 9 ans, au moment où une forte mobilisation du milieu dans lequel elle grandissait luttait contre son expulsion. Près de 50 ans plus tard, elle publie « Youssef ou la fidélité à soi » qui est aussi une manière d'être fidèle à son enfance. Elle est cette semaine l'invitée de la suite dans les idées. Johanna Siméon, bonjour.
Bonjour Sylvain Bourbon.
Je le disais, vous êtes politiste, professeur à l'ENS. Vous publiez aux éditions Anamosa. Ça va être une émission un peu spéciale Anamosa parce que dans la rubrique actualité, on parlera du prochain numéro de la revue Sensibilité. Donc dans cette précieuse maison d'édition qui sait fabriquer de beaux livres aussi, et le vôtre en profite parce qu'il met en valeur un certain nombre de documents. Il met en valeur aussi les propos de Youssef sur lesquels vous vous appuyez beaucoup dans ce livre. Dans ce livre, Youssef ou la fidélité à soi, où vous essayez de reconstituer une trajectoire sociale, trajectoire que vous avez croisée furtivement à l'âge de 9 ans, je le disais en commençant, et qui vous est revenue soudainement en mémoire. Peut-être on peut commencer par là, alors que sur les réseaux sociaux, vous appreniez des nouvelles, ou dans l'actualité, vous appreniez des nouvelles qui vous faisaient penser à ce qui était resté, j'imagine, imprimé dans votre mémoire.
Exactement. Alors, je ne l'avais jamais totalement oublié, mais effectivement, j'ai grandi avec ce souvenir d'enfance. Et ce souvenir d'enfance, c'est celui d'entendre mes parents parler à voix basse, l'air grave, l'air inquiet du fait que Youssef se reposait, traumatisé, et que ce qu'il avait subi, c'était des violences policières au commissariat à Marseille. Et je pense que je saurai un peu plus tard, parce que ça, de toute façon, on ne voulait pas trop me le dire, mais je saurai un peu plus tard que ce qu'il avait subi, c'était aussi un viol avec une matraque. Et j'ai grandi en sachant ça, en sachant que c'était possible, en me souvenant que Youssef, après la mobilisation en sa faveur, avait subi en rétorsion une plainte pour outrage et avait été expulsé, et qu'il avait refait sa vie à Suède et que même un jour on l'avait vu à la télé. Je parle de la télé parce que c'est aussi comme ça que je vais réussir.
Oui, il avait surgi une deuxième fois en quelque sorte pour vous, voilà. Quelques années plus tard.
J'étais pas sûre de me souvenir du reportage télé, mais en tout cas comme je me souvenais que mon père avait ri en disant que voilà, Youssef avait un peu grossi, bon, j'avais un vague souvenir de ça. Et puis en 2016, il se trouve qu'il y a un doctorant qui est, lui, menacé de viol. Et puis en 2017, il y a l'affaire Théo Louaka, ce jeune Français d'origine congolaise qui subira un viol avec une matraque télescopique dont il restera handicapé à vie. Et à ce moment-là, ce souvenir qui n'y avait jamais totalement disparu, je me souviens même que lors de ma thèse sur les mouvements de sans-papier, j'avais croisé le nom de Youssef Sassi dans quelques archives, mais c'était jamais allé plus loin, je m'étais jamais posé la question de, tiens, au fait, qu'est devenu Youssef? Et en 2017, je me dis, mais au fait, qu'est devenu Youssef? D'autant que je tombe sur une une de Libération, et au départ, je pense que c'est une une qui parle du cas Youssef Sassi, une une de Libération qui évoque un viol avec matraque dans un commissariat de Marseille, en disant, les policiers, les violeurs avaient avoué. Bon. Et je me mets à chercher, je m'aperçois que c'est pas ça, c'est pas la bonne date, et ça devient un peu une espèce d'obsession, comment retrouver Youssef Sassi?
Alors, il faut dire que vous avez eu l'occasion de travailler sur les sans-papiers, sur ces questions de migration, sur ces questions de présence en France de gens qui n'ont pas de papiers, des luttes de gens qui les accompagnent pour qu'ils en obtiennent, pour qu'ils ne soient pas expulsés. C'est des objets, ce sont des questions que vous avez affrontées, sur lesquelles vous avez fait votre thèse, mais de manière assez différente. C'est-à-dire que là, vous retrouvez des objets familiers sur une période un peu antérieure à celle sur laquelle vous aviez travaillé, quoique il y avait une dimension historique dans votre travail aussi.
J'avais aussi travaillé sur les mouvements des années 70, c'est comme ça d'ailleurs que j'avais croisé des...
Voilà, mais de façon plus classique en quelque sorte. Là, vous écrivez à la première personne, vous partez d'un souvenir d'enfance, vous faites une démarche qui est relativement inhabituelle, même si elle est de plus en plus fréquente dans les sciences sociales, qui ressemble à une enquête que mènent plus souvent des journalistes ou des écrivains.
Oui, et d'une certaine façon, la difficulté dans la construction du livre aussi, ça a été que il y avait ce savoir de point de départ. Je sais ce qui est arrivé à Youssef fin décembre 1978. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire de ce qui lui est arrivé? Alors, première contrainte, je peux pas dire « Oh, comme c'est intéressant pour les sciences sociales, il faut d'abord expliquer comment j'en ai entendu parler. » Donc forcément, s'exposer un peu plus. Après, j'appartiens plutôt à un courant sociologique dans lequel on trouve légitime, quand on fait de l'ethnographie, d'expliquer son rapport à l'objet, de parler de soi dans la mesure où ça permet de nous apprendre des choses sur ce dont on parle. Il s'agit pas, effectivement, d'en faire des tonnes de façon narcissique, mais de se dire si j'appartenais, par exemple, à un milieu qui était un milieu où il y avait des profs, des travailleurs sociaux. C'est aussi parce que ces profs, ces travailleurs sociaux avaient été affectés autour de l'étang de Berre, à un moment du boom, de la pétrochimie, de la sidérurgie, et ainsi de suite. Voilà. Donc, je tire effectivement cette pelote. Je me dis très vite effectivement que c'est impossible de ne pas dire « je ». Et du coup, la question devient assez vite, en suivant cette bonne vieille ficelle que j'aime beaucoup de Howard Baker, qui est « de quoi mon cas est le cas ». Et si ce cas, il devait parler de quelque chose, qu'est-ce que ça serait? Et je voyais bien dans le détail de quoi ça pouvait parler. Ça nous parle de sociologie, bien sûr, des migrations et des frontières compliquées entre la migration et l'asile, qui sont jamais des frontières bien nettes. Ça nous parle de questions d'engagement, de comment, pas seulement on arrive à l'engagement par sa socialisation, mais aussi qu'est-ce que l'engagement fait aux vies dans la suite de tout un ensemble de travaux sur les carrières militantes. Mais... on pouvait comme ça dérouler. Ça parle de
violence policière.
Ça parle aussi de pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire des biographies et des biographies éventuellement sur des cas exceptionnels. C'est quelque chose qu'on fait un peu plus en haut. Kafka, Mozart, pas de problème. J'ai le sentiment parfois que les biographies des gens en bas de l'espace social ou considérés comme tels, souvent ne sont considérées comme légitimes que si elles sont supposées être représentatives de quelque chose. Et alors, quand on a une trajectoire à ce point exceptionnelle et atypique, voilà. Et à un moment, il y a un livre qui m'a fait beaucoup de bien, un livre que j'ai découvert d'ailleurs par une chronique qu'en avait faite mon camarade de genèse Wilfried Ligné, qui avait chroniqué le livre de Joseph Cabris, lui aussi chez Anna Moza. C'est d'ailleurs pour ça que je vais arriver chez Anna Moza, et j'en suis bien contente. Christophe Granger, l'auteur de ce livre, suit ce personnage extraordinaire qui est Joseph Cabris, qui naît en France en 1780, qui devient marin anglais, qui fait naufrage au large des îles Marquises, qui devient autochtone tatoué des pieds à la tête, qui ensuite se retrouve en Russie puis en Angleterre et finit seul après avoir été un phénomène de cour puis un phénomène de foire. Et il y a quelque chose que pointait bien Wilfried Ligné et que disait lui-même Granger, c'est qu'est-ce que c'est que se maintenir quand tout le soubassement de votre existence, vous y avez été arraché. Parce qu'à un moment, vous n'êtes plus cet homme tatoué, grand chasseur, père, époux, que vous étiez aux Marquises. Et je pense que ce livre m'a aidé à m'autoriser, moi, à faire ce livre, et qui m'a aidé à peut-être construire quelque chose autour de qu'est-ce que c'est qu'une biographie transnationale, et qu'est-ce que c'est aussi que le maintien de soi, surtout quand on a subi des tortures et des violences, et à plusieurs endroits.
Qu'est-ce que c'est se maintenir face aux États, au pluriel, et par-delà les frontières, au fond?
Oui.
C'est ça, cette histoire.
Exactement.
Alors, vous avez, pour pouvoir l'écrire, vous êtes retourné vers la presse de l'époque, vers des bases de données, vous êtes retourné vers des personnes que vous avez essayé de retrouver, liées à cette sociabilité qui était aussi en partie celle de votre enfance. Et puis, vous avez évidemment tenté de retrouver le principal intéressé. Ça n'a pas été facile, mais vous avez fini par y arriver.
Oui, c'est une histoire, effectivement, à un moment, j'avais mis dans mon bureau, vous savez, comme pour les enquêtes policières, des cartes, des choses, en me disant peut-être que quelque chose... j'ai appelé...
Vous saviez qu'il était en Suède, a priori.
Alors, enfin, je savais qu'il avait refait sa vie en Suède, sauf qu'il avait refait sa vie en Suède dans les années 80, ce qui ne me disait pas où il était.
Donc, c'était 35 ans avant, donc voilà.
À un moment, j'ai essayé quand même d'appeler des Youssef Sassi en France, en Tunisie, aucun n'était le bon. Plus personne n'avait de contact avec lui, même son ancien avocat en France... Et donc, on fait ce qu'on fait souvent dans ces enquêtes. Je suis revenu sur un des documents dont j'avais noté à la fois les verbatims et copié les images, et qui était le reportage que, grâce aux archivistes de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, j'avais retrouvé, le fameux reportage qui en lui-même est drôlement intéressant. C'est un reportage diffusé sur Antenne 2 suite à ce qu'on a appelé l'affaire de la Courneuve, le fait qu'un enfant arabe est tué par un voisin qui se plaint du bruit tué au fusil. Et à ce moment-là, il y a tout un débat, 82-83, intégration, immigration, etc. Et on demande à un journaliste qui, à l'époque, je crois, couvre les élections en Suède, on lui demande de faire un reportage sur les immigrés en Suède, un peu dans le registre « La Suède n'est-elle pas un paradis pour les immigrés ?»
À l'époque, en France, on commençait à parler de « seuil de tolérance ». C'était un peu l'expression dans les journaux.
Oui, tout à fait, aussi. Et qui on va interviewer en Suède sur la situation des immigrés? Ben celui qui va être un bon client pour parler face caméra, c'est-à-dire un immigré qui est en Suède mais qui est francophone, et il se trouve que c'est Youssef Sassi, qui apparaît à l'écran, qui raconte sa nostalgie de la France, qui ne parle pas de ce qui lui est arrivé en France, mais qui explique qu'on est mieux accueilli quand même en Suède. Et à un moment, son avocat montre d'ailleurs les deux cartes d'identité quasiment identiques, que sont la sienne et celle de Youssef, en disant « Regardez, nos droits sont tellement proches que nos cartes d'identité sont identiques. J'espère un moment, grâce au fameux personne numéro, retrouver sa trace par le personne numéro. » Chose bizarre, rien. Ce qui est très étonnant pour la Suède. Et finalement, je vais essayer de retrouver l'avocat suédois. Bon, il y avait une faute de frappe dans son prénom, donc ça va prendre encore un peu de temps. Et l'avocat m'aidera à retrouver Youssef, qui vit désormais sous une autre identité. Autre nom, autre prénom, c'était pour ça que ça a été très difficile. Il ne répondait pas au téléphone. J'ai fini par lui écrire. Et c'est en avril 2019 que je recevrai un coup de fil de Youssef Sassi.
Alors vous allez vous parler au téléphone, vous allez le rencontrer en Suède et mener de très longs entretiens, dont je disais qu'ils étaient un matériau, peut-être le matériau le plus important du livre. Et d'ailleurs ça se voit, c'est un matériau... Alors vous avez choisi de le restituer comme le font les sociologues dans les publications les plus scientifiques, en gardant l'expression orale dans sa transcription la plus fidèle. Et vous avez choisi, ou la graphiste du livre a choisi de faire déborder dans les marges, à l'inverse de ce qui se pratique d'habitude. En général, quand on cite des entretiens, on les met en retrait, et là, ils débordent. Et j'ai trouvé ça, ce geste graphique magnifique, parce qu'au fond, il indique à quel point une vie, de toute façon, par définition, déborde. Et que le sociologue, quoi qu'il fasse, ne peut pas la saisir dans son intégralité.
Exactement, et que ça serait lui faire violence que prétendre assigner un seul sens à l'histoire et à la vie de Youssef Sassi. C'est une idée de mon éditrice, Chloé Pathé, et c'est une très belle idée. Très souvent, effectivement, on cite en plus petit les entretiens et avec un décalage de marge. Et là, c'est le contraire, puisque ça déborde et c'est sur la même taille de caractère. Et j'ai choisi une restitution très littérale avec beaucoup d'hésitation. Je sais qu'il y a des gens que ça hérite, des gens qui ont le sentiment qu'on ne traite pas bien les gens quand on les fait mal parler. Il y a même au sein de ma famille de sciences sociales, il y a des débats sur quel degré de réécriture, de retranscription. J'ai d'ailleurs un tout petit peu réécrit malgré tout, mais j'ai voulu conserver une forme très oralisée pour plusieurs raisons. Tout d'abord, peut-être principalement, parce que la question de la maîtrise linguistique difficile de Youssef, elle est constitutive de son rapport aux autorités. Il explique que, très souvent, ce qui fait que ça se passe mal devant des guichets, devant des gens, c'est qu'on n'arrive pas bien à se faire comprendre, que l'énervement monte, et que quand on a le malheur en tant qu'immigré de s'énerver, c'est là que plus personne ne vous défend. Même les antiracistes qui, jusqu'alors, vous défendaient et qui disent « Oh bah quand même, il s'énerve, il crie. »
On n'a pas la maîtrise nécessairement de la nuance.
Exactement.
Et ça en dit long aussi sur sa socialisation primaire, parce qu'il grandit en Tunisie, et il va à l'école avec du français, mais aussi de l'arabe, et il a un rapport, après, voilà, il vit en France, mais depuis longtemps, il vit en Suède. Donc ce rapport au français, il est complexe, il existe depuis toujours, pratiquement, mais il est un peu distendu.
Oui, exactement, et puis maintenant, effectivement, l'essentiel de ces interactions, elles se passent d'abord en suédois. Et donc, quand on fait les entretiens, d'ailleurs, une des choses qui est touchante, et c'est en ça que sa langue, un libraire me faisait remarquer que c'était une langue sédimentée. C'est à la fois du français très 70s, j'avais le sentiment de retrouver des termes, j'en aurais pas qui me viennent à l'esprit, mais des termes qu'employaient mes parents dans les années 70.
Des expressions, oui.
Des expressions. C'est en même temps des tournures qui, parfois, laissent la place à quelques mots d'arabe. Et c'est parfois des termes en français, mais qui viennent du suédois. Je le comprenais parfois parce que la racine des mots était proche de celle de l'allemand, j'avais fait de l'allemand. Donc, quand il dit démonstration, par exemple, c'est parce qu'il pense au suédois.
Ou comme en anglais, comme manifestation.
Exactement, manifestation pour démonstration. Et donc, c'est une langue sédimentée. Et il me semblait que bien le faire parler, ça aurait supprimé ce rapport compliqué aux autorités. Et puis le fait qu'un texte retranscrit, bah, ça n'a pas été prononcé pour être retranscrit. Et donc, je voulais pas faire un texte trop propre qui aurait trahi ce côté un peu titubant du langage. L'alternative, sinon, c'était de citer moins. Mais le citer moins, ça posait un problème, qui est le problème de l'histoire orale, qui est qu'en histoire orale, on sait bien, malgré tout, que le plus fiable, c'est peut-être des détestations très fortes, des souvenirs très vifs, mais que sur tout un ensemble de détails, ben, on est très, très flottant. Et je trouvais que faire du blanchiment de sources orales, en m'appropriant ce qu'il disait, mais en faisant disparaître ces mots, était aussi un problème. Bon, c'est aussi pour ça que je suis allée chercher des archives. Et donc, il y a, comme deux plans d'écriture, mon écriture d'interprétation, de reconstitution, et puis l'entretien avec Youssef. J'ai une amie qui, lisant le livre, m'a dit « Mais tu m'avais fait écouter une cassette de Youssef ?» Je dis bah, « Bien sûr que non, je ne fais pas écouter mes entretiens. » Ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'elle avait eu le sentiment d'entendre Youssef parler. Et ça m'a fait plaisir aussi.
On l'entend. Et d'ailleurs, l'histoire, vous la racontez deux fois, au fond, dans le livre. Qui est construit comme ça. C'est-à-dire qu'au fond, il y a une première fois où l'idée est de reconstituer au plus près cette trajectoire biographique en vous servant de tous les matériaux. Et dans la deuxième partie, vous continuez à vous servir exactement des mêmes matériaux, mais au fond, vous replacez cette trajectoire dans une perspective plus analytique, qui est davantage celle des sciences sociales, Johanna Siméon.
Exactement, même si, alors je voudrais surtout pas que ça laisse penser qu'on peut présenter des éléments sans qu'il soit déjà un choix, un découpage, et sans qu'il soit déjà porteur de théorie. Mais c'est comme une façon de se déplacer entre, de toute façon, l'histoire et les autres sciences sociales. Moi, j'ai toujours pensé que l'histoire, c'était de toute façon l'endroit où on écrit avec les concepts entre les lignes, et que les concepts remontent plus fortement à la surface quand on se rapproche de la sociologie. Et donc, c'est vrai qu'il y a une narration qui est un peu plus chronologique, avec des scansions sur des moments, des lieux, dans la première partie, qui permet de rentrer. Et une deuxième partie qui revient un peu plus sur de quoi c'est le cas. Qu'est-ce que c'est par exemple la question de l'hétérogamie dans les milieux militants, ce modèle un peu du couple militant étranger, prof de lettres par exemple, qu'est-ce que ça change en termes d'acquisition, de socialisation secondaire, qu'est-ce que ça dit de la violence d'État, qu'est-ce que ça dit des sociabilités et ainsi de suite. Et donc la construction de la deuxième partie est plus thématique par rapport à la première. Oui.
Alors, on ne va pas avoir le temps ici de restituer toute la richesse de ce parcours, bien évidemment. Peut-être s'arrêter sur une chose spécifique au parcours de Youssef. Sans doute, beaucoup d'autres le partagent avec lui, mais néanmoins, c'est pas forcément le cas de la plupart des travailleurs étrangers qui arrivent en France. Il est un étranger qui arrive en France au début des années 70, mais ce qui va être frappant dans sa trajectoire, c'est qu'il va s'insérer professionnellement et surtout amicalement, amoureusement, dans un cercle de sociabilité très militant. Et ça, c'est une spécificité très forte de ce parcours que vous restituez parce qu'elle est aussi liée à un moment. Vous reprenez l'expression de Liora Israël entre deux mai 68 et mai 1981. Oui. Cette période assez particulière pour la société française dans ce rapport à un certain nombre de questions de société et en particulier celle de l'immigration.
Oui, exactement. En fait, il passe d'un moment de sa vie où il arrive en France, il est saisonnier. Malgré tout, il est un saisonnier un peu atypique, il est plus alphabétisé. Très vite, la CGT, son grand frère, hein, il y a aussi tout le rôle de la famille, et notamment de son grand frère, Habib, qui aura des responsabilités à la CGT. Très vite, la CGT lui propose de tenir des permanences. Et puis très vite aussi, il s'aperçoit que la vie de saisonnier, ou la vie de travailleur agricole, puisque lui reste en France, est une vie loin des centres urbains, une vie extrêmement dure, et il lui prend l'envie plutôt de se rapprocher de la partie plus industrielle des Bouches-du-Rhône. Et c'est là qu'il fait plusieurs rencontres, pas que des rencontres gauchistes d'ailleurs, puisqu'il y a aussi la très belle rencontre avec un prêtre qui rencontre par les jeunesses ouvrières chrétiennes, le prêtre Jo Mula. Mais il rencontre ensuite Lucienne Musarella, qui sera ensuite son épouse, qui est une militante de l'Organisation communiste des travailleurs, l'OCT, et de tout un petit milieu gauchiste, dont des gens qui vivent effectivement vers Martigues, Port-de-Bouc, c'est-à-dire un petit peu, voilà, alors qui pour l'essentiel sont profs, mais qui sont un peu en terre de mission auprès de tout un ensemble de travailleurs, pas que immigrés.
Et dans une région où le communisme local est très fort, mais eux ne sont pas communistes, ils sont gauchistes, et cette tension, elle est structurante aussi.
Également, c'est un point important à l'époque, et d'ailleurs Martigues est toujours une ville communiste. Moi j'ai grandi d'abord à Port-de-Bouc, puis à Saint-Mitre, qui à l'époque étaient deux villes ou villages communistes. Voilà, on a un monde ouvrier, et notamment un nouveau monde ouvrier, aussi bien de migration interne en France, hein, des gens qui arrivent de Lorraine, de Savoie, autour de la pétrochimie, de la sidérurgie, et donc tout un travail immigré également. dans la région. Et c'est dans ce contexte-là, qui reste un contexte de forte politisation, même s'il y a eu aussi un reflux gauchiste, mais il y a quand même pas mal de gens qui n'ont pas du tout le sentiment d'être à la fin de l'histoire des mouvements sociaux. Et ça, c'est aussi quelque chose qui a été soutenu, montré, aussi bien par Lilian Mathieu, par Julie Pagis, que d'autres, que il faut pas oublier ce long mai, et bien sûr, il y aura Israël. Dans ces sociabilités, effectivement, il devient le compagnon de cette militante gauchiste. Et il y a une espèce d'échange enchanté et vertueux qui se joue dans les deux sens. Échange enchanté parce que Youssef fascine beaucoup plein de militants qui sont ravis de ce camarade qui ne baisse pas les yeux. Qui non seulement est beau, jeune, mais par rapport à plein de migrants qui ont appris durement à devoir baisser les yeux, à se faire discret, etc. Lui a une espèce comme ça de flamboyance, de pas se laisser faire, de défendre ses droits qui entrent vraiment en affinité avec les attentes de ces gauchistes qui, de leur côté, ont pas forcément toujours un très bon rapport avec une partie du peuple au nom duquel ils entendent parler, puisque ce peuple ouvrier d'origine nationale plus ancienne, hein, parce que souvent il vient d'immigration italienne ou espagnole aussi, il est parfois un peu plus contrôlé par le PC. Et
un PC qui ne se mobilise pas beaucoup sur les questions migratoires, c'est le moins qu'on puisse dire aussi à l'époque.
C'est exactement, c'est des choses que j'avais vu moi sur les questions de sans-papiers.
On se rappelle de Foyer Sonacotra à Vitry, par exemple, des choses comme ça.
Aussi bien les questions de Foyer Sonacotra que les grèves de la faim sur les saisonniers, les sans-papiers, c'est considérer la grève de la faim comme une méthode petite bourgeoise tenue par les gauchistes autogestionnaires et ou autogestionnaires de la CFDT, alors que la CGT ou le PC n'aiment pas trop. Même si dans le cas de Youssef, une fois qu'il faudra prendre sa défense, on pourra aussi compter sur ses petites notabilités communistes pour le défendre, oui.
Alors ça, c'est le milieu social dans lequel il se trouve en France après être arrivé de Tunisie, jeune. Et puis, il va se passer quelque chose, un événement absolument central dans sa trajectoire biographique qui va décider de son sort, qui va décider de son expulsion. C'est précisément ce traumatisme que vous évoquiez, ce viol dont il va faire l'objet. Mais c'est important, Johanna Simon, de revenir sur les conditions dans lesquelles tout ça s'est déclenché, en fait. Youssef voulait simplement prendre un billet de train à la gare Saint-Charles à Marseille pour aller fêter le nouvel an à Paris, rejoindre celle qui deviendra, qui était devenue depuis quelques mois son épouse. Il va au guichet à la gare, il veut faire un chèque pour payer son billet de train, l'enchaînement est terrible.
L'enchaînement est terrible, puisqu'on doute de ses papiers, et puis on lui dit très vite, un bougnou n'a pas de carnet de chèque. Et il s'indigne, il est vraiment très sûr de son bon droit, il va dire aussi bien devant les guichetiers, me semble-t-il, qu'en tout cas il le dira au commissariat et dans sa déposition, mais ma femme, elle gagne 6000 francs, elle est professeure de lettres agrégées, j'ai pas besoin de frauder, ce qui, je pense, va accroître en plus le désastre de ce qui active les policiers comme les guichetiers. Très sûr de son bon droit, il est le premier à aider les policiers qui arrivent et qui très vite vont dire il y en a marre de ces Arabes qui font toujours des problèmes, on l'emmène au commissariat et c'est là effectivement que face à ces protestations, face à ce côté ma femme est française, etc. C'est presque...
C'est la manière qu'il a d'opposer le droit, tout simplement.
Oui, d'opposer le droit et de pas vouloir se laisser faire. Effectivement, ce qui caractérise et ce qui a toujours caractérisé Youssef Sassi, c'est de pas baisser les yeux, de pas vouloir se laisser faire. Il l'avait déjà fait en allant au prud'homme pour obtenir le paiement d'heures qui n'avaient pas été payées. Alors, sachant que quand on est saisonnier, effectivement, on fait 12, 13 heures pour 8 heures payées. Donc, il agit comme il a l'habitude de le faire. En plus, il est marié depuis quelques mois à Lucienne et c'est là, effectivement, qu'il va subir un tabassage en règle avec donc un viol par matraque.
Alors, il sort du commissariat, mais c'est le début de ses ennuis en termes administratifs, parce que sa situation de carte de séjour, qui était déjà à l'origine du problème à la gare...
était un petit peu tangente. Il était déjà repéré comme quelqu'un de militant. Ça avait sans doute, même s'il était tout à fait en couple avec Lucienne, ça avait sans doute décidé à se marier, parce qu'on sentait que c'était quand même un petit peu délicat. Et donc là, il rentre mortifié à la maison. Les copains sont à la fois horrifiés et sa compagne sont à la fois horrifiés, pas totalement surpris de ce qui s'est passé. Ils en ont parfois, pour certains, de l'OCT, l'expérience eux-mêmes. Pas à ce point, mais... Et il va décider de porter plainte dans une séquence militante où il y a plusieurs plaintes dans les mois précédents à Marseille d'immigrés qui vont porter plainte contre des violences subies au commissariat de la gare Saint-Charles. Bon, sachant qu'il y a
ce que vous aviez trouvé dans la presse par ailleurs et qui concernait d'autres individus.
Tout à fait. Et puis, bon, il y a toute l'histoire marseillaise par ailleurs, hein, des violences racistes, pas seulement policières, mais de façon plus générale, bien sûr en 1973, mais à d'autres moments. Il y a eu toute une série de meurtres pendant les années 70, beaucoup de meurtres d'immigrés.
Et c'est à ce moment-là que vous entendez parler de lui, au fond. Quand il y a cette mobilisation.
Oui, oui, oui. Moi, j'entends effectivement parler de lui très peu de temps après, puisque c'est le fameux Youssef se repose, il est traumatisé ou il est bouleversé, etc. Et là, très vite, en fait, lui et ses proches se doutent que... Alors, il dépose plainte. Il y a une contre-plainte qui est déposée pour outrage. Et il doit passer devant la commission d'expulsion le 6 février 79. Devant la commission d'expulsion, deux sources de presse différentes évoquent le fait que au tribunal, on lui dit « Mais enfin, si la France vous plaît pas, qu'est-ce que vous y faites? Si vous êtes si malheureux chez nous, pourquoi vous restez ?» l'arrêté, on attend donc la décision. Pour ça, il faut attendre la suite de sa propre plainte. Voilà. Et pendant ces quelques mois, il va se cacher, être prudent, rester les uns chez les autres. Et le jour, il reçoit un recommandé. Il reçoit un recommandé à la poste de Martigues. Ils hésitent beaucoup avec Lucienne. Est-ce qu'on va le retirer? Est-ce qu'on va pas le retirer? Ils y vont.
Ils pensent que c'est sa naturalisation.
Ils pensent que c'est sa naturalisation et à minima que ça pourrait être la décision relative à sa plainte. Or, c'est un non-lieu.
Or, c'est un guet-apens.
Et c'est un guet-apens, puisque là, des policiers l'attendent, il est mis dans une voiture, et donc après un bref contrôle, il est mis dans l'avion à Marignane, et il atterrit en Tunisie.
Il atterrit en Tunisie avec une réputation, en quelque sorte.
Une réputation, puisqu'il arrive comme expulsé gauchiste, ce qui veut dire qu'il va se retrouver immédiatement dans les sous-sols du ministère de l'Intérieur à Tunis, qui sont de notoriété publique, un lieu où ont été commises énormément de tortures, et lui-même va être torturé pendant l'été 1979. Et ça, c'est quelque chose que j'ignorais, en fait, quand j'ai commencé l'enquête. Et je découvrirai d'ailleurs que, pour beaucoup de ses amis suédois, Youssef, c'est d'abord une victime de ce qu'il a subi en Tunisie et des violences qu'il a subies en Tunisie, alors que pour beaucoup
d'épisodes
de monde,
français, ils n'en ont pas connaissance.
Oui, à la limite, voilà, il y en a quelques-uns qui disent il y a dû se passer un truc au commissariat de Marseille, voilà, un truc. Alors que pour voilà le monde dont je venais, Youssef avait d'abord subi des violences en France. Et donc là, je commence à comprendre ce qu'a été la suite de ce qu'il a subi, quoi.
Et dans la partie analyse de votre livre, vous revenez sur ces caves tunisiennes, parce que c'est une des manières dont il perçoit, au fond, rétrospectivement, sa vie, et une des manières qui lui ont permis aussi d'avoir une forme de réflexivité, d'analyse, qui est sans doute la raison pour laquelle il parvient à se maintenir, comme vous dites.
Oui. Ce qui était frappant en entretien, c'est qu'il avait un sens de ce qu'on appelle aujourd'hui des punchlines. Il a comme ça tout un ensemble de formules très très bien trouvées sur des choses qui, enfin, ça permet de comprendre qu'il a beaucoup raconté une partie de ce qui lui est arrivé, qu'il refait très souvent le film, d'ailleurs en se disant si à tel moment il a pas fait une bêtise. Mais donc il a cette forme réflexive et aussi dans son récit. Que j'avais retranscrit complètement à la main. À l'époque, les outils de mise au propre des entretiens n'étaient pas aussi développés. Et c'est vrai qu'à force d'écouter ces heures et ces heures d'entretien, je me disais, mais c'est fou, il y a en permanence un schème qui revient et qui est l'opposition entre les caves, d'un côté, et c'est plusieurs choses, les caves, et la communauté, de l'autre, et c'est plusieurs choses, la communauté. Les caves, c'est aussi bien la cave dans laquelle on le loge, tout jeune saisonnier, au fin fond de la Cambrousse, il est terrorisé, les autres saisonniers sont repartis, lui reste, et il a peur. Il a l'impression de voir des spectres, il est terrifié. Les caves, c'est ensuite les caves dans lesquelles on le torture, mais c'est de façon générale pour lui tous les lieux de la solitude, de l'arrachement aux siens, aux proches, les lieux où on est livré à la violence. Et il peut même parler des caves pour parler de certains commissariats en Suède où il sait, où il me dit, il se passe aussi des choses. Et en opposition, le lieu qui le rend heureux, c'est la communauté qui veut dire plein de choses. C'est aussi bien penser à prendre une boulette de viande lors d'une fête religieuse en Tunisie pour la ramener à ses parents, que savoir qu'on va mettre la main au pot pour aider les autres et vraiment partager tout l'argent dans telle communauté en Ardèche par laquelle il est passé avant la communauté des copains. Et c'est le fait que la seule chose qui peut protéger les Youssef quand ils ne sont plus protégés par l'État, c'est précisément les liens, c'est précisément la communauté.
Cette opposition entre ces communautés et ces États, parce qu'il y en a au moins trois en question, il y a éventuellement ceux par lesquels il passe, mais enfin c'est surtout l'État tunisien, l'État français et l'État suédois auquel il a affaire. Ça donne à voir aussi une représentation intéressante quand on est politiste pour penser mieux, peut-être, les rapports entre l'État et la société ou la société et l'État.
Oui, tout à fait. Je me souviens d'une petite phrase de Luc Boltanski dans La souffrance à distance qui disait il y a quand même un implicite qui est la superposition État-société. Et même quand on dit il faut penser aux choses transnationales, etc., il reste une forme de nationalisme méthodologique dans la façon d'interpréter plein de phénomènes sociaux. Et évidemment, ça rend plus difficile le travail quand on essaie de comprendre ce que c'est que se maintenir au travers des frontières et comment il faut penser à la fois la puissance de l'État et malgré tout ce geste ancien chez plein de peuples et chez plein de gens qui consiste pour se protéger à choisir l'exit, à choisir l'escapisme dont parle Jean-François Bayard, à choisir ces façons de jouer. Alors, pas toujours avec beaucoup d'habileté, des fois on y perd et on y perd des plumes, surtout quand il faut utiliser le droit, mais jouer du compartimentage étatique pour se sauver.
On a commencé ce dialogue, Johanna Siméon, en partant du point de départ de votre enquête, c'est-à-dire la manière dont des faits d'actualité vous ont rappelé un souvenir d'enfance et vous ont mis sur cette enquête, sur ces traces, sur ce chemin qui est aujourd'hui ce livre, Youssef ou la fidélité à soi. Le fait de vous être plongé dans cette période historique, que par ailleurs vous connaissiez déjà bien, qu'est-ce que ça vous a conduit à penser en termes d'écho avec la situation contemporaine? L'idée plutôt d'une forme de continuité, de stabilité, de récurrence, l'idée de parenté entre certaines périodes avec des changements. Comment vous regardez au fond ce temps qui s'est écoulé?
Alors, c'est compliqué au sens où j'ai pas non plus envie de plaquer quelque chose du type de tout temps l'État français a été colonial et raciste, mais malgré tout, disons que les potentialités que ça se reproduise, elles sont extrêmement puissantes. Alors, et c'est vrai, moi j'ai un souvenir très vif de ce que je qualifie dans le livre dans les années 70 de sorte d'ambiance d'apartheid. Dans les Bouches-du-Rhône, vraiment. Et ce sentiment que il faut que les Arabes y baissent les yeux et certainement pas qu'ils sortent avec les Françaises. Et ça, je pense que ça peut revenir à une vitesse extraordinaire, quand bien même les droits des étrangers, aujourd'hui, sont beaucoup plus assis juridiquement qu'ils ne l'étaient dans les années 70. Dans les années 70, on part d'une période où Youssef, il n'a pas d'avocat en garde à vue, où il ne peut pas fonder d'association comme ça. Donc, il y a eu toute une jurisprudence. Ça a été aussi une de mes découvertes.
Il y a eu un travail militant aussi, le rôle du justi en particulier.
Le rôle du droit, voilà, exactement. Donc, il y a eu un progrès du point de vue du droit, et même l'affaire Théo, par exemple. Alors, c'est un jeune Français, ça change des choses, mais on a quand même un président de la République qui vient à son chevet. Donc, sous certains aspects, on pourrait se dire ça va mieux. Sous d'autres, la féroce envie que les Arabes, que les minorités baissent les yeux, elle peut revenir avec une vitesse folle.
D'autant que les frontières se traversent aujourd'hui beaucoup plus difficilement qu'à l'époque. On va en parler dans la deuxième partie de l'émission, puisque le réalisateur Raphaël Bottiveau nous rejoint pour parler d'un certain nombre de films dont il est le co-auteur avec Hélène Bayot. Mais c'est après un extrait d'un album assez surprenant d'un monsieur qui s'appelle Otto Benson, et ce titre « Mr. Peanut ».
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau.
On parle de Youssef ou la fidélité à soi, c'est le titre du livre de Johanna Siméon Germanos qui paraît aux éditions Anamosa, qui est une enquête sur une trajectoire singulière, mais qui permet de comprendre beaucoup de choses. Et on élargit la focale dans cette deuxième partie en restant sur des questions migratoires avec vous, Raphaël Bottiveau, bonjour.
Bonjour Sylvain Beaumont.
Vous êtes réalisateur de documentaires, entre autres choses, et on vous doit un certain nombre de films, de courts-métrages, mais aussi de textes, de bandes dessinées, de reportages ou de créations audio, qui s'intéressent toutes à la question des migrations. Par exemple, vous avez signé avec Hélène Bayot un film, 400 paires de bottes, qui nous amène dans les Alpes, cette fois, là où un certain nombre de migrants traversent la frontière entre l'Italie et la France, et où ils ne sont pas tout seuls, en fait, Raphaël Bottiveau.
Oui, c'est intéressant, vous avez terminé la première partie en évoquant les transformations du droit par rapport aux étrangers, et donc c'est intéressant de faire le pont entre les époques, de l'époque de Youssef, qui était un travailleur immigré, si on peut dire, aux migrants, comme on les appelle aujourd'hui. Des choses se sont passées, mais les routes de l'exil demeurent et elles sont semées d'embûches. Alors, la frontière à laquelle on s'est intéressé avec Hélène Bayeux dans nos différents travaux est la frontière italo-française dans la région de Briançon, où depuis une dizaine d'années, c'est devenu une route migratoire et environ 30 000 personnes sont passées par là. Et effectivement, on a été frappé sur place, c'est une région de montagne, par la manière dont ces personnes-là, au début, en particulier dans les années 2018-2019, et avant un petit peu aussi des personnes originaires d'Afrique de l'Ouest, étaient exposées vraiment aux rigueurs de l'hiver, et notamment à des blessures normalement associées à l'alpinisme, comme les gelures. Et donc, on avait été témoin, par exemple, dans une maraude, donc dans ces moments où des personnes solidaires côté français, en hiver notamment, attendent les personnes migrantes qui traversent la frontière pour les secourir et les mettre à l'abri, puisqu'elles sont exposées à des températures hivernales de moins 10 degrés parfois. Et on avait été témoin du moment de l'arrivée au refuge solidaire de Briançon, où ces personnes sont accueillies et où on leur retire leurs chaussures, là en l'occurrence une paire de bottes par exemple qui avait dû être découpée au ciseau parce qu'elle était gelée et collée au pied de la personne, un jeune Guinéen qui venait de traverser la frontière. Et on s'est intéressé à ces bottes qu'on a retrouvées ensuite en Italie. Cette même botte, c'est le début du film, 400 paires de bottes, avait été renvoyée, ramenée en Italie. Et avait, malgré le fait qu'elle était déchirée, coupée, avait servi à d'autres.
Et, c'est ce qui permettait de la reconnaître, et c'est une bonne nouvelle, ça voulait dire que la boucle était bouclée.
Oui, c'est ça, oui. L'approche de la frontière, elle est d'un côté ou de l'autre, et nous, ce qui nous a intéressé dans ce travail, c'est de voir un petit peu comment il s'agissait aussi d'une circulation, parce que pour les personnes solidaires qui aident les exilés ou les migrants, la frontière n'est pas une limite, c'est un lieu qu'on traverse parfois de façon pendulaire, parfois de façon régulière, donc il y a ces personnes qu'on retrouvait des deux côtés et qu'on a suivies à travers la trajectoire de cet objet qui permettait de mettre en avant le danger auquel étaient confrontés les exilés et auxquels ils sont toujours confrontés, puisque cette botte protège leurs pieds des gelures. La solidarité, les gestes de solidarité que Johanna Siméon évoquait tout à l'heure et qui sont importants à partir du moment où l'État devient un danger pour les personnes où elles ne sont plus protégées, là en l'occurrence du froid par exemple et de réels dangers de mort auxquels elles font face l'hiver dans la région de Briançon, et ben c'est des petits gestes comme ça, comme la mise à disposition de bottes, comme l'octroi d'un refuge pour la nuit, des choses comme ça qui sont le fait de personnes solidaires, individuelles et qui s'organisent collectivement, qui sont les derniers signes d'humanité, d'une certaine manière, auxquels peuvent se raccrocher les personnes qui traversent la frontière. Donc c'est ça qu'on a...
Voilà. Johanna.
Oui. Alors il y a plusieurs choses qui me touchent beaucoup dans le travail de Raphaël Bottiveau et d'Hélène Bayeux. La capacité, déjà sans voix off, ce qui n'est pas rien, à à entrer par des objets matériels pour montrer aussi ce que la migration fait au corps et pour comprendre aussi comment l'histoire traverse des territoires, hein, parce que la dernière fois que des Africains avaient été exposés à des gelures, c'était en 14-18 par exemple, enfin, et que dans London Calling, un autre de leurs films, on est sur les plages, voilà, les plages du Nord. Je trouve aussi qu'il y a des choses très belles sur le fait que une frontière, ça n'est jamais seulement géographique. Une frontière, c'est plus poreux s'il y a des gens solidaires qui sont là. C'est à l'inverse plus fermé. Et la frontière, elle n'est pas seulement sur sa délimitation en pointillé sur la carte. C'est aussi parce que quelqu'un va appeler la police parce qu'il y a un Africain dans un bus qu'elle se rematérialise un peu plus loin. Et ce qu'on voit à la fin de 400 paires de bottes, c'est ce migrant seul qui s'enfonce dans la nuit, et ça désigne aussi quelque chose qui est très fort de l'ordre de la solitude. Et si c'est dangereux, c'est aussi parce qu'on ne connaît pas ces lieux et qu'on est seul, et qu'on risque sa vie parce qu'on est seul.
Ce qui est frappant, Raphaël Bottiveau, c'est aussi la profondeur historique dont on parlait tout à l'heure avec Johanna Siméon, c'est-à-dire que les gens dont elle parle, c'est ces gens qui sont mobilisés pour les migrants au milieu des années 70. Mettons qu'ils aient 25 ans à l'époque, ils en ont 75 aujourd'hui. Et vous avez vu des gens qui s'occupent de faire circuler ces bottes, qui s'occupent d'apporter de l'aide, qui sont confrontés au même problème qu'il y a 50 ans, en fait. Et la question qui se pose, c'est celle aussi de la transmission dans le temps, à travers les générations, de ces gestes de militantisme, de mobilisation, de ces façons pour la société d'aller, au fond, contre l'État, d'une certaine façon.
Oui, ça, c'est particulièrement intéressant dans le Briançonnais, parce que, alors, il y a plusieurs types de filiation militante. Il y a une filiation à travers l'engagement dans d'autres luttes, parce que c'est aussi souvent des personnes qui aujourd'hui ont 60 ans, 70 ans, pour certaines, qui sont investies dans ce mouvement, donc qui ont lutté par exemple contre l'électrification de la vallée de la Clarée dans les années 70-80, donc c'était un mouvement contre un projet d'infrastructure important qui menaçait le paysage et les modes de vie. Et il y a d'autres qui sont plus récemment, côté italien notamment, investis dans les luttes contre la ligne à grande vitesse Paris-Lyon-Turin, et qui donc avaient déjà noué tissé des liens de mobilisation, donc qui ont été réactivés au moment de ces solidarités avec les migrants qui sont arrivés à partir de 2016. Et puis après, il y a quelque chose au plus long cours, qui relève aussi de la réinvention de certaines formes de traditions de solidarité qui ont trait au territoire montagnard. C'est-à-dire que la montagne, c'est comme la mer, c'est un lieu où l'humain est confronté à des limites naturelles et où c'est un devoir moral, éthique, de venir en aide aux personnes qui ne connaissent pas cet environnement et qui sont menacées faute de familiarité avec cet environnement. Et ça, c'est quelque chose qui est régulièrement mis en avant par les personnes solidaires. Après, il y a une dernière chose que je trouve assez intéressante aussi, c'est que on tombe sur des alors, Johanna Siméon évoquait la question des cas, de la casuistique aussi, des situations et des personnes qui sont engagées. Il y a une des premières figures de proue de la mobilisation qui a aussi impliqué beaucoup de gens de la montagne, qui étaient des guides de montagne, des accompagnateurs en montagne. C'était un homme déjà assez âgé dans la vallée de la Clarée, à Névache, qui était un ancien militaire de carrière, qui avait notamment servi en Algérie, qui était plutôt approché par certains de ses voisins avec suspicion, justement pour ce passif militaire, et qui en fait a été un des premiers à organiser un véritable réseau de solidarité à Névache pour aider des Ouest-Africains. Donc il a déjoué un peu les préjugés qui l'entouraient. Donc il y a aussi une dimension aussi de, ça convoque aussi des choses qui relèvent de formes d'humanité plus diffuses d'un point de vue politique. Voilà.
Une autre manière de l'inscrire dans l'histoire, c'est de voir vraiment les perspectives plus longues. Et je citais tout à l'heure une création sonore comme une guerre qui ne finissait jamais. Au fond, ce titre, ça pourrait être aussi celui de l'émission aujourd'hui, comme une guerre qui finissait jamais face aux difficultés que rencontrent ces personnes sans papier à s'insérer du fait des législations, du fait des politiques des États.
Oui, tout à fait. Enfin, ça c'est donc ce titre renvoie à un entretien d'un ethnographe italien qui s'appelle Nuto Revelli, qui a été récemment l'objet de plusieurs traductions en français, mais qui est encore relativement méconnu en France malgré la grande valeur de son travail. Il a documenté la fin de la société montagnarde telle qu'on l'avait connue dans la majeure partie du XXe siècle, avec l'exode rural, comme on peut l'appeler, des montagnards côté Piémont, côté italien, vers la ville. Et donc c'est des histoires de vie qui ont été collectées, des histoires d'hommes, mais aussi tout un recueil qui s'appelle l'anello forte, qu'on pourrait traduire par le maillon fort en français, qui est en cours de traduction et qui concerne exclusivement des récits de vie de femmes. Et ces histoires de Piémontais, d'Italiens, sont vraiment des histoires de migration et qui font écho au présent. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant dans ce travail-là que vous évoquez, travail sonore, de mettre à travers la mobilisation de différentes archives sonores en relation ces différentes époques, parce c'est quand même aussi l'inscription dans le paysage, c'est-à-dire qu'on retrouve des parcours qui sont les mêmes, sans parler des motivations des personnes qui peuvent différer avec les époques, mais la géographie aussi impose certaines formes, certains parcours, et ça c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup avec Hélène Bayot.
Johanna Siméon.
Oui, ça me faisait penser aussi à un auteur italien, Mario Rigoni-Stern, et son petit livre, Histoire de Tenley, qui est aussi finalement l'histoire d'un berger au milieu de frontières qui bougent. Et voilà, ce souvenir qu'on a été migrant à une autre époque, je pense que ça peut être un bon vaccin contre pas mal de choses.
Alors, il y a un autre, une dernière œuvre dont j'aimerais que vous disiez un mot, c'est London Calling. Là, on se déplace, on n'est plus sur la même frontière, on est sur les rivages de la Manche, mais on a aussi cette profondeur historique entre ce à quoi renvoie Calais aujourd'hui, cette espèce de no man's land, ces grandes barrières qu'on aperçoit quand on veut emprunter le tunnel pour aller sous la Manche. Et puis, une situation historique antérieure et telle que travaillée par la fiction notamment, c'est ce qui vous avait conduit à imaginer London Calling.
Oui, en fait, c'était en 2017. On était basé à Lille à l'époque où Hélène enseignait à l'université de Lille 2. Et on s'était rendu, comme pas mal de gens qui étaient sur place, qui étaient intéressés par ces questions-là ou qui étaient engagés, à Calais. C'était le moment, sous François Hollande, du démantèlement de la jungle de Calais. C'était quelque chose d'assez hallucinant, parce que c'était un dispositif policier, médiatique, humanitaire énorme, peut-être sans précédent sur le territoire français, qui était digne des théâtres de guerre. Vraiment, on avait l'impression d'être dans un grand conflit où il y a tous ces acteurs qui se mobilisent en même temps. Et on avait connaissance d'un livre et d'un film donc qui s'appelle Weekend à Zuidcote, un livre de Robert Merle, un film de Henri Verneuil qui est un des principaux films de guerre en fait de l'histoire du cinéma français, et qui raconte l'errance d'un groupe de soldats français incarné par Belmondo, Marielle et d'autres sur les plages du Nord, à Dunkerque plutôt qu'à Calais, en mai-juin 40. Et qui cherche à gagner l'Angleterre. Alors, rien à voir avec la situation des exilés et des migrants bloqués à Calais, mais une résonance étrange. Et on avait rencontré à ce moment-là un groupe de jeunes originaires d'Iran et d'Afghanistan, à l'université de Lille 2 où Hélène enseignait justement, et on leur avait proposé de travailler avec nous sur ce projet de mise en relation qui était entre ces deux histoires, ces deux moments, à travers ce film, et ça leur avait plu, et donc c'est une forme d'adaptation en quelque sorte, où ces acteurs amateurs rejouent Belmondo, Jean-Pierre Marielle et les autres du groupe de soldats égarés, et finalement ça donne une mise en abîme qui interpelle et qui fonctionne assez bien au sens où elle n'assène pas une ressemblance, mais elle questionne quelque chose qui nous a semblé troublant et qui nous a paru nécessaire de faire. Voilà.
Merci beaucoup, Raphaël Bottiveau. Je rappelle donc que ce sont des films que vous avez co-réalisés avec Hélène Bayot. On trouve les titres, les références sur la page de La Suite dans les idées. Vous pouvez les chercher. Et puis la référence aussi du livre de Johanna Siméon Germanos, Youssef ou La fidélité à soi, aux éditions Anamosa.
France Culture, La Suite dans les idées. Sylvain Bourmont.
On reste pour cette rubrique actualité avec les éditions Anamosa, puisque ce sont elles également qui publient cette très belle revue qui s'appelle Sensibilité, qui paraît une fois par an. numéro 14, Quand vient l'aurore. C'est le titre de ce numéro, et avec nous pour en parler de l'autre côté de l'Atlantique, depuis New York, j'imagine, Thomas Dodman, qui est historien et professeur à Columbia University. Bonjour.
Bonjour Sylvain Beaumont.
C'est magique, vous nous entendez. Et donc ce très beau numéro, parce que je voudrais saluer le travail graphique de Anna Moza. Je l'ai fait pour le livre dont on a parlé dans l'émission, mais c'est vrai aussi pour chacun de ces numéros qui est singulier. Là, on a deux pantones, un bleu, un rouge, qui viennent s'entrecroiser pour dessiner l'aurore. Comment vous avez choisi ce thème très original, l'aurore, pour un numéro de revue ?
Oui, alors c'est un choix qui d'abord s'est imposé par le côté graphique, et je veux saluer le travail de Julienne Richard, notre graphiste qui nous accompagne depuis 4 numéros et qui donne vraiment cette patte graphique très particulière de la revue. C'est comme les autres objets dont nous saisissons dans cette revue, un objet que nous approchons par le sensible, par une approche pluridisciplinaire, sortant des sentiers battus de la recherche pour offrir une traversée du politique, du social et du culturel. En l'occurrence, l'objet Aurore nous a été soufflé par un membre du comité scientifique, Thomas Boucher, qui d'emblée, dans ce numéro, nous montre un petit peu le côté fuyant, séduisant, mais très difficile à saisir de l'objet Aurore.
Il commence par une longue liste.
Longue liste, tout de à mots. Fait. Je vais peut-être lire un petit peu. Matinale, impatiente, vigilante, jeune, naissante, radieuse, pure, brillante, éclatante, étincelante, fraîche, gaie, joyeuse, etc., etc. Ce sont les mots que le grand dictionnaire universel Larousse du 19e siècle associe à l'aurore pour essayer de à la fois fixer la définition de cet objet, tout en montrant à quel point il est fuyant, il échappe à une définition simple. C'est un objet donc qui nous a obligés nous-mêmes à nous creuser un petit peu le cerveau pour essayer de trouver comment est-ce qu'on pouvait raconter l'aurore, comment est-ce qu'on pouvait essayer de saisir l'aurore. L'aurore est un phénomène, un état céleste, c'est la fin du crépuscule atmosphérique, astronomique, pardon, comme le disent les astrophysiciens, c'est ce que nous appelons un petit peu l'aube de manière courante. C'est le moment où le soleil apparaît à l'horizon, et donc il y a tout de suite une question de luminosité qui accompagne l'apparition de l'astre solaire, qui devient une palette chromatique à cause de l'effet des vapeurs atmosphériques, et donc le foisonnement des teintes que nous associons à l'aurore, le rouge écarlate, le rosé, le safrané, etc. Tout ça, ce sont des déformations en fait de l'atmosphère, des vapeurs atmosphériques, qui par ailleurs nous obligent à voir cet objet avec un battement de retard en fait, plutôt un battement d'avance, pas en fait. Nous le voyons déformé par l'atmosphère. Mais c'est aussi un seuil finalement. Nous nous sommes rendus compte, l'aurore, c'est un moment dans le temps. Entre la nuit et le jour, c'est un instant, mais qui est aussi une transition qui marque la fin et le début des activités terrestres, des angoisses, des libérations peut-être aussi. Il s'y croise des humains, des animaux, mais aussi des dieux et des esprits, en passant par des passés un peu encombrants qui nous laissent, mais aussi des futurs rêvés, évidemment, des espérances d'avenir. C'est donc à la fois une répétition, mais aussi une différence.
Et dans ce numéro, il y a beaucoup de choses qui ont trait, évidemment, à la peinture, à la couleur, mais aussi à la littérature. Il y a un magnifique article sur le rose de Florence Dupont en particulier.
Tout à fait. Florence Dupont nous a offert cet article qui retrace un petit peu l'histoire méconnue de l'association entre l'aurore et le rose, en passant évidemment par Ulysse et l'Odyssée, et l'aurore au doigt de rose qui scande chaque chapitre ou chaque action humaine dans l'Odyssée, mais qui au final nous a un peu troublé, parce que le rose est finalement une invention du XVIIIe siècle. La couleur rose est une invention du XVIIIe siècle. Et donc, on voit là aussi comment, à travers les époques, on associe des couleurs ou des rythmes différents à un phénomène comme l'aurore.
De Homère à Disney, écrit-elle, en passant par Fragonard. Ouais.
En passant par Fragonard. Et c'est toute la perspective historique, la profondeur historique historique que cherche à donner sensibilité à chaque numéro. Pour ce numéro qui est vraiment un des numéros plus poétiques, on va dire plus artistiques de dans notre catalogue, nous avons voulu mobiliser aussi pour la première fois des musiciens, Gaspard Klaus, qui nous a fait la gentillesse de nous offrir une composition musicale originale, Sylvain Prudhomme, évidemment écrivain, qui nous a offert une nouvelle inédite sur l'aurore, Yasmine Sil, qui est poète, traductrice, qui a fait une expérience de traduction d'un poème sur Titon et la déesse Aurore. Ce sont des photographes et des artistes aussi, comme Ferrante Ferrari, qui est un photographe de la lumière, qui se définit comme un photographe de la lumière et qui a essayé de saisir ce que peut être la luminosité de l'aurore. Et ce sont ces voix d'artistes, ces voix de création qui nous ont permis de déployer un petit peu tout le sens, toutes les possibilités de l'aurore, avec aussi évidemment des articles de recherche scientifique.
Et même des astrophysiciens.
Des politologues, des sociologues sur la façon dont l'aurore mobilise les divinités, les esprits, mais aussi les forces de police et les espoirs politiques d'un renouveau, y compris sur les ruines de Palmyre, par exemple, dans la Syrie actuelle.
Merci beaucoup Thomas Dodman. Quand vient l'aurore, magnifique dernier numéro, numéro 14 de la revue Sensibilité. On trouve la référence sur la page de la suite dans les idées. C'était la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau avec Aurélie Marsay et Sorge Leroy.